Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour commencer aujourd'hui notre lecture du livre « Parle-moi d'amour » de Michel Coats, aux éditions Ouvrières, je vous propose de reprendre la dernière page que nous avons lue dans l'épisode précédent, c'est-à-dire la fin de la visite du jeune homme chez le sage. Ça nous aidera à mieux comprendre ce chapitre 14 qui est la lecture aujourd'hui. Le sage se recueillit, il ferma les yeux, il était silencieux. Ce silence ne me gênait plus, au contraire. Je savais maintenant qu'il était l'aube d'un soleil levant. Ce jour-là, cependant, il dura plus longtemps. J'observais mon ami et je m'étonnais que même les yeux clos, son visage fût autant expressif. Il était grave, immobile, presque figé. Tout à coup, ses lèvres se mirent à remuer imperceptiblement. Parlait-il tout bas? Alors, un à un, ses traits se détendirent. Un frémissement de vie passait sur son visage, comme une brise légère fait vivre un champ de blé. C'était plus profond encore, car maintenant, son visage changeait. Il devenait clair, translucide, comme si une mystérieuse lumière s'était allumée à l'intérieur. Enfin, il ouvrit les yeux, me regarda longuement et dit « Prie, mon petit, prie !» Puis il se leva et m'accompagna jusqu'à la porte. Je sortis en silence sans même avoir songé à lui dire au revoir. Chapitre 14. Prier ? Moi, prier ? La demande du sage m'avait laissé sans voix, et pourtant elle ne m'étonnait pas. J'étais certain que le sage était un grand croyant. Il ne me l'avait pas dit, mais je l'avais compris dès nos premières rencontres. Les mots sont porteurs d'âme, et les âmes vivantes communiquent leur vie par leur intermédiaire. Le sage me donnait un peu de sa vie, et sa vie était riche d'une foi que j'ignorais, mais que par lui j'expérimentais, car je ne pouvais pas croire que la lumière qu'il allumait en mon cœur et la force qu'il me communiquait ne venaient que de lui. Nul arbre ne porte du fruit si la sève ne l'habite. Mon ami ne parlait pas de Dieu, mais il vivait de lui. J'en étais sûre, il priait. Mais fallait-il que moi aussi je prie? Était-ce nécessaire pour découvrir la profondeur de l'amour? Je ne comprenais pas. Je croyais en Dieu. Non, pas parce que mes parents y croyaient, beaucoup proclamaient ma mère et mon père vaguement, mais parce que je n'admettais pas d'être suspendu dans le néant, venant de nulle part et allant nulle part. Fleuve sans source et chemin sans issue. Je n'admettais pas de n'être que le fruit de milliards de hasards, mille fois plus miraculeux que tous les miracles dont on m'avait parlé au catéchisme. Je n'admettais pas que mon esprit ne fût que réaction de quelques acides en ma chair mortelle. Je n'admettais pas que la tendre affection de mes grands-parents et mon fol amour d'enfant pour eux soient morts à tout jamais quand leur cœur cessa de battre et que leur corps devint poussière en la terre anonyme. J'avais réfléchi à tout cela, et beaucoup d'autres choses encore, longuement, sérieusement, mais seul, trop seul, comme un explorateur solitaire qui s'enfonce dans l'épaisse forêt vierge à la découverte de la source d'un fleuve mystérieux. Sans compagnon, sans conseil, sans boussole, je m'étais perdu, je m'étais découragé, je ne cherchais plus, j'étais résigné. Qu'importe, je croyais en la source et c'était l'essentiel. Je pouvais vivre sans rien connaître d'elle. Beaucoup d'hommes vivaient ainsi et ils n'en vivaient pas plus mal. Cependant, de temps en temps, l'envie de partir à la recherche de mon origine, de mon Dieu, me reprenait, lancinante ou violente. C'était comme un appel. Quelque temps avant de rencontrer le sage, je l'ai dit, l'appel était devenu irrésistible. Il surgissait au creux de mes cafards, de mon dégoût de vivre sans savoir pourquoi je vivais. J'avais évolué. Je ne cherchais plus quelque chose, mais de plus en plus quelqu'un. Comme un enfant né de père inconnu et qui ne peut se résoudre à vivre de sa vie sans connaître son nom et contempler son visage. Grâce au sage, je souhaitais de toutes mes forces que ce visage fût un visage d'amour, et cela ajoutait à mon trouble, car il ne correspondait pas à l'image que je me faisais du Dieu de mon enfance, celui que j'avais appris et qui encombrait encore ma mémoire sans que je puisse m'en débarrasser totalement. Car ce Dieu était mon Dieu et je n'en doutais pas, puisqu'il n'y en avait point d'autre. Il fallait croire en lui et vivre avec lui, sans comprendre, sans aimer. C'est pour cela que je trouvais plus simple de tenter de l'oublier. Le Dieu auquel je croyais était le Tout-Puissant, le Créateur, le Maître absolu. Depuis toujours, il avait les pleins pouvoirs, il distribuait donc ses bienfaits comme il l'entendait, selon des critères inconnus que je ne pouvais déchiffrer, mais qui me paraissaient profondément injustes. Il régnait sur la vie et sur la mort, il jugeait, il condamnait, et surtout, surtout, il laissait l'homme souffrir atrocement. Peut-être même le faisait-il souffrir, puisque j'entendais dire par des croyants « Dieu m'a envoyé cette épreuve, c'est sa volonté ». L'accepter était pour eux le sommet de la foi. Moi, je n'acceptais pas. Alors, je croyais en Dieu, mais n'avais pas la foi des chrétiens. Il m'arrivait cependant de prier, je le reconnais. Poussé par la nécessité ou la peur, je tentais d'obtenir les faveurs de ce Dieu Tout-Puissant. Je crus plusieurs fois qu'il m'avait exaucé, mais le plus souvent, je me heurtais à son terrible silence et me décourageais. Depuis mes rencontres avec le sage, à nouveau, j'avais envie de prier, besoin de prier. C'était étrange. Je cherchais un interlocuteur. Je cherchais Dieu, mais je ne voulais pas de mon Dieu. Et je le lui disais, « Puisque je crois que tu existes, mon Dieu inconnu, Dieu qui me tourmente, Dieu silencieux, fais-toi connaître. Si je te prie aujourd'hui, ce n'est pas pour obtenir quelque chose, c'est pour la lumière. J'ai besoin de lumière pour éclairer ma route. C'est pour l'amour. J'ai besoin d'être aimé pour pouvoir enfin aimer. Oh mon Dieu inconnu, je ne te comprends pas. Je t'en veux, je ne t'aime pas et pourtant je voudrais t'aimer. Oui, je voudrais tant t'aimer. » C'est ainsi que j'osais m'adresser à Dieu, mais j'avais peur. N'était-ce pas blasphémé? Quand, inquiet, je m'en ouvris à mon ami, plus que jamais j'observais son visage. Ce visage qui parlait avant que ses lèvres ne parlent. Qu'allait-il me dire? Je fus étonnée. Le sage était paisible et au fur et à mesure que je m'exprimais, semblait habité par une joie grandissante. Il dit « C'est une bien belle prière, mon petit, que cette prière-là. » Et sa joie parvint jusqu'à moi, comme un printemps qui naît après un long hiver. J'étais heureux, heureux de sa joie. Elle devenait la mienne irrésistiblement. Mais une fois de plus, je ne comprenais pas. Que se passait-il en moi qui puisse faire naître un si grand bonheur? C'était encore la nuit. Le sage devina ma pensée. Je l'ai dit, il devinait tout avant que je ne l'exprime. Lors de mes premières rencontres avec lui, j'en étais agacée, humiliée, comme un homme, malgré lui, dénudé devant un étranger. Aujourd'hui, j'en étais heureux. Ainsi l'ami se réjouit que son ami le rejoigne au-delà des vêtements et des bruits de ses mots. Il n'a plus besoin de se dire, il lui suffit d'être là. En toi, dit le sage, c'est la nuit, mais la nuit de Noël. Réjouis-toi, car aujourd'hui en ton cœur, comme un petit enfant, naît le vrai Dieu du ciel et de la terre. Il vient vers toi, il vient en toi, parce que tu as dit oui. Accueille-le, aime-le. Comment le reconnaîtrai-je, puisque je ne le connais pas? Déshabille ton Dieu, mon petit, car ton Dieu n'est pas le vrai Dieu, et pas plus que toi, je ne puis m'agenouiller devant lui. Ôte-lui ses habits de tout-puissant, de juge, de magicien, écarte de lui ses attributs du pouvoir, arrache-lui tous ses déguisements dont l'ont affublé à tes yeux les savants, les hommes de loi et de règlement, comme tes préjugés, tes fausses connaissances, ton imagination et tes désirs, tes peurs et tes lâchetés. Déshabille ton Dieu. Et quand, enfin, seront tombés un à un tous les oripeaux, qu'en couches successives, tu as recouvert le vrai Dieu, alors, aux yeux de ton cœur, il apparaîtra. Il apparaîtra et tu connaîtras. Et tu verras que le vrai Dieu n'a qu'un visage, celui de l'amour, nu, Jésus-Christ, nu en crèche, nu en croix. Le sage leva la tête. Il regardait en face de lui. Je suivis son regard et vis qu'il contemplait un crucifix. Magnifique bois sculpté fixé au mur devant lui, visage rayonnant d'un Jésus mort, mais vivant au-delà de sa mort. Je sus alors, d'une certitude absolue, que c'est en lui qu'il croyait, que c'est lui qu'il aimait. « Regarde, dit le sage, sans détourner les yeux du visage aimé, c'est lui le vrai Dieu venu au-devant de nous en Jésus-Christ, sans vêtements humains, sans puissance humaine, sans pouvoir humain, abandonné, méprisé, seul, nu, pour que les hommes, enfin, croient que seul l'amour donne la vie, sauve la vie, fait fleurir la vie en joie éternelle. Mon ami se tut. Il baissa la tête et je vis que ses lèvres à nouveau bougeaient imperceptiblement. Je savais maintenant qu'il priait et je respectais sa prière. Il pria longtemps, et j'observai que non seulement le silence ne me gênait plus, mais qu'il me comblait. Je m'installai en lui comme en un lit de paix. J'en sortais étrangement reposé. Mais le sage relevait la tête. Tout à coup, il dit d'une voix forte, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font !» Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Ils ne savent pas reconnaître l'amour, ils bafouent l'amour, ils tuent l'amour, hier, aujourd'hui, demain, en toi, en tes membres. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-nous et redonne-nous l'amour. À nouveau, il se tut. Il priait encore. Je baissai la tête comme pour mieux vivre à l'intérieur. Et je crois que moi aussi je priais, car je me pris à murmurer tout à coup, « Ô Père, pardonne-moi, car je ne savais pas ce que je faisais. » C'est à partir de ce moment précis que j'eus envie d'être pardonné. Ce fut moi, cette fois, qui rompit le silence. Je dis au sage, « Si Dieu est bien celui dont vous parlez, je suis prêt à l'aimer. » Ce serait tellement beau, un Dieu qui soit tout proche et qui ne fasse plus peur. Mais comment pourrais-je croire en ce Dieu si pauvre, si démuni, si loin, oh oui, si loin de l'image de mon Dieu, celui en qui je croyais, sans pouvoir l'aimer ? « Va vers les autres, mon petit, répondit le sage, et prie. » Prie encore, car nul ne vient à Jésus si le Père ne l'attire. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 44. Chapitre 15. Il m'attirait. J'en étais sûre maintenant. Depuis longtemps, depuis toujours, il m'attirait. C'était lui qui me faisait signe au-delà de mes faims et de mes soifs inassouvis, au-delà de mes dégoûts de moi-même, de mes cafards, de mes remords, au-delà de mes révoltes devant l'injustice et les souffrances des hommes, au-delà de mes désirs fous de vérité, de paix, d'amour, c'était lui, lui le Dieu amour. Il m'attirait. Mais comment aurais-je pu le reconnaître, le rencontrer? J'étais enfermée dans ma maison close. Il fallait que je me lève, que je sorte de chez moi. Je m'étais levée, j'étais sortie, mais j'hésitais sur le pas de la porte. Et le sage me poussait. Il me poussait sur ma route d'homme, la mienne. Pas celle de mes idées, de mon imagination, de mes rêves, ni celle de mes impressions, mes sensations, mes émotions, mais celle de mes frères de chaque jour en ma vie quotidienne. Il me disait « Aime-les !» Et me mettant sur leur route, il me mettait sur le chemin de Dieu, du vrai Dieu. Moi, je ne savais pas que Dieu, personne ne l'avait jamais vu. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 12. Mais qu'il avait pris visage d'homme en Jésus, et que depuis la venue de Jésus, nul ne pouvait aimer et servir Dieu qu'il ne voyait pas, s'il n'aimait et ne servait ses frères qu'il voyait. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 20. À tâtons, dans la nuit, je cherchais Dieu, mais je ne le cherchais pas sur la bonne route. Et le Dieu que je cherchais était un faux Dieu. Maintenant, j'avais tout à apprendre. Mon Dieu déshabillé, nu en crèche, nu en croix. De toutes mes forces, je désirais le connaître et l'aimer. Je revins vers le sage et lui dis, « Ami, parlez-moi encore de Dieu. » « Je parlerai, mon petit, puisque tu me le demandes. Mais sache qu'on n'apprend pas Dieu. Il se révèle. Peut-être qu'à travers mes mots, tu recueilleras sur lui quelques lumières. Mais lui, c'est en aimant dans ta vie que tu le rencontreras et le reconnaîtras. Dites-moi tout de même votre foi. Toute ma foi? Oui. Il est beaucoup trop tôt. Tu ne comprendrais qu'avec ta tête, mais ton cœur ne suivrait pas. Dites-moi tout de même votre foi. Mon cœur suivra de loin. Alors il dit, je crois que Dieu est amour. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Je crois qu'il est famille, Père, Fils, Esprit Saint, trois personnes, tellement unies par l'amour qu'elles ne font qu'un. Je crois que Dieu est bonheur infini parce qu'il est amour infini. Je crois que la création est fruit de l'amour, parce que l'amour veut faire participer à son bonheur. Je crois que tout homme, avant même qu'il ne soit aimé personnellement, est infiniment par Dieu, et qu'il le sera toujours, quel que soit son visage et les chemins de sa vie. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5. Je crois, alors que l'homme est pensé d'amour de Dieu, fait chair et que cette image de Dieu en lui peut être défigurée, mais jamais ne peut être détruite. Je crois que l'homme fait par amour a été créé pour l'amour et donc libre et invité au bonheur infini de l'amour. Je crois que Dieu a donné toute la création aux hommes pour qu'ensemble, ils en prennent possession, l'achèvent et la mettent au service de tous. Je crois que Dieu a créé l'homme créateur avec lui, par la famille humaine, image de sa famille, et libre de faire jaillir la vie ou de la refuser. Je crois que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils dans le monde. Jean 3, 16. Et qu'ainsi l'amour infini a pris en Marie visage d'homme, corps d'homme, cœur d'homme. Jésus de Nazareth, 33 ans de vie, planté au centre de l'histoire humaine et de la recouvrant toute. Je crois que Jésus, parce qu'il est homme et frère de tous les hommes, parce qu'il est frère de tous les hommes et solidaire de leurs péchés, le non-amour, et souffre de leur souffrance autant qu'il a souffert de la sienne, je crois que Jésus, en donnant sa vie par amour pour ses frères, a redonné à chacun d'entre nous et à l'humanité entière tout l'amour par nous gâché, et que, restituant l'amour, il nous a restitué la vie. Je crois que Jésus a traversé la mort, qu'il est vivant parmi nous jusqu'à la fin des temps, et que les hommes, par lui et en lui, peuvent vivre la vie qui ne finira pas. Je crois que les croyants et amants de Jésus forment ensemble un grand peuple, une grande communauté, l'Église. Je crois que cette communauté Église, dont je suis membre en Jésus, est avec mes frères, est pour nous, pauvres et pécheresses, et qu'elle n'a pas su garder son unité. Mais je crois qu'elle est appelée à être sainte, une et signe de l'amour. Je crois que Jésus a voulu pour elle des responsables, et que ces responsables sont des hommes, et donc qu'ils sont pécheurs et peuvent se tromper. Mais je les respecte et je les aime parce que Jésus les a voulus, choisis, appelés, et que son esprit les accompagne sur les longs chemins de l'histoire. Je crois que l'esprit de Jésus, l'Esprit Saint et souffle d'amour qui vient au-devant de l'homme libre, liberté, qui peut s'ouvrir à lui pour l'accueillir, se laisse envahir par lui, traverser par lui et être envoyé vers les autres. Souffle d'amour qui unit l'homme à l'homme, les hommes aux hommes et à l'univers, et qui bâtit le royaume du Père, royaume d'amour enraciné dans l'aujourd'hui de l'histoire humaine, pour s'épanouir demain dans l'amour trinitaire. Et c'est pourquoi, mon petit, je crois qu'avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, vivre, c'est aimer sous le souffle de l'Esprit. Et je crois que l'amour ne peut pas mourir parce qu'il vient de Dieu et retourne à Dieu. J'avais écouté, subjugué, fasciné. C'est vrai, je ne comprenais pas, mais je faisais confiance. Ainsi, l'homme tout entier recueilli fixe la ligne sombre de l'horizon, là où la nuit hésite encore, puis lentement s'efface devant le soleil qui se lève. Et les caresses de la lumière sur les boutons de fleurs viennent sécher une à une les larmes de la nuit. C'était lui, mon soleil, la lumière qui éclaire tout homme. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 9. Il s'était levé dans les ténèbres de mon cœur et mon cœur l'avait reconnu sans le connaître pleinement. J'étais dans la joie et m'écriais « Ami, c'est donc lui, ce souffle mystérieux, qui vient d'ailleurs et vole vers l'ailleurs ?» Oui, mon petit, c'est lui l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, Dieu. Et l'Esprit de Dieu est présent à nos amours? Oui, mon petit, comme le soleil est présent à chacun de ses rayons et la source présente à chaque goutte d'eau de la rivière. Les rayons de soleil, vois-tu, ne sont pas le soleil. La rivière n'est pas la source, mais il n'y aurait ni lumière ni rivière sans le soleil et sans la source qui s'offre et puis se donne. Ainsi, l'amour est plus grand que ton cœur et bien plus grand que ton corps. L'amour est souffle de Dieu qui envahit la terre. Il pénètre ton cœur et ton corps comme il pénètre tout homme qui aime. Car tout amour authentique vient de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 7. Et s'envole vers Dieu en passant par l'homme libre qui s'ouvre, reçoit et à son tour redonne. Mais alors dis-je, subitement inquiet, comment peuvent-ils aimer ceux qui ne connaissent pas le Dieu amour? Les rayons de soleil ne connaissent pas le soleil, ni la rivière, la source. Et pourtant, la lumière brille sur le monde. Et dans le lit de la rivière, l'eau coule vers la mer. Ainsi, mon petit, beaucoup d'hommes aiment leurs frères sans connaître l'amour qui les anime et sans connaître le nom et le visage de celui qu'ils aiment lorsqu'ils aiment leurs frères. S'ils sont fidèles, ils les découvriront plus tard, quand la vie éclatera au-delà de la trompeuse mort, celle du grain qu'on dit mort parce qu'il est enterré. Alors, leurs yeux et leurs oreilles s'ouvriront et Jésus leur dira « C'était moi ?»« C'était moi, l'affamée que tu as nourrie, affamée de pain, de dignité, d'amitié ?» C'était moi, l'étranger que tu as accueilli, l'homme de l'au-delà des frontières qu'entre vous, vous avez dressé. C'était moi, le prisonnier que tu as libéré, l'esclave rivé à toutes les chaînes que les hommes ont forgées. C'était moi, c'était moi, c'était moi, le pauvre, pauvre de toi, tant que gardant ta vie pour toi, tu ne t'étais pas donné à moi en te donnant aux autres. Et ceci entreront dans la joie de l'amour infini parce qu'ils auront aimé. Évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46. Mais alors, dis-je, il suffit d'aimer? Qu'importe à l'homme de connaître son Dieu du moment qu'il lui est fidèle? Ne dis pas cela, mon petit. Tu découvriras peu à peu que celui qui aime n'a qu'une passion, se révéler à l'aimer. Et celui qui est aimé qu'un désir, connaître le nom et le visage de son amour. Alors l'un et l'autre, dans la clarté, peuvent librement s'accueillir et se donner. Je me retirai sans bruit, heureux et recueilli comme un homme s'en va ému d'une rencontre, car pour moi, aujourd'hui, Dieu était devenu quelqu'un. Chapitre 16. C'était trop beau. J'étais heureux mais inquiet. Je ne pouvais plus suivre. Mon cœur s'envolait, mes pieds lourds traînaient sur le chemin. Ainsi l'homme captif, enfin libéré mais ébloui, marche à tâtons sur la route retrouvée. Autour de moi, la vie ne changeait pas. La réalité était là, têtue, moins belle que mes rêves, car n'avais-je pas rêvé? Quelquefois, je le craignais, sans y croire vraiment. Ma famille, mon travail, le monde avaient retrouvé leur couleur des journées sans soleil. Je n'avais pas encore compris que la lumière était en moi et que la route s'éclairait quand mon cœur brûlait. Les autres autour de moi me paraissaient très loin. J'étais persuadée, sans l'avoir vérifié, qu'ils ne pensaient pas ce que je pensais, ne voyaient pas ce que je voyais. Avec qui pouvais-je alors partager ma joie, mes espoirs, mes doutes? Et d'ailleurs, aurais-je trouvé les mots pour les dire que je n'aurais point osé? On se serait moqué de moi. Une fois encore, je me retrouvais seule. Cependant, mes découvertes et les certitudes qui peu à peu s'installaient en moi m'obligeaient irrésistiblement à changer de vie. Je sortais moins, et signe très important dans ma chambre que je ne fuyais plus, le silence plus souvent demeurait sans que je le chasse. Dehors, j'écoutais les autres et me prenais à les regarder d'un œil bienveillant. Naissait alors la sympathie, là où jusqu'à présent régnait l'indifférence et quelquefois l'hostilité. Je m'engageais de plus en plus au service de mes frères, presque sans le vouloir, comme poussée par une force en moi, libérée elle aussi et maintenant disponible. Était-ce le souffle? Je n'osais pas répondre, mais je tendais ma voile. Je l'avoue, je ne me reconnaissais plus moi-même. J'étais plus décidé, plus fort en même temps, plus petit et plus faible. Je me disais que seul, je n'arriverais pas à vivre et à aimer comme je le désirais. J'avais besoin de quelqu'un, de Dieu, peut-être. En tout cas, pas de mon ancien Dieu, mais de celui du sage, le Dieu amour, le vrai. Je ne le connaissais pas et pourtant, je me surprenais de plus en plus à le prier. Du moins, je crois que je priais, car je ne savais toujours pas ce que c'était que de prier. Cette fin de chapitre et l'enseignement que le sage développe si bien touchent profondément le jeune homme en recherche d'amour. Et je veux tenter de le résumer en quelques phrases glanées çà et là dans le texte. Ici, c'est le jeune qui parle. Il dit « Je revins vers le sage et lui dis « Ami, parlez-moi encore de Dieu. Dites-moi votre foi. Mon cœur suivra. » Et si vous le permettez, je vais relire une ou deux des explications qu'il a reçues dans les pages 80 à 82. Je crois que Dieu est amour. Je crois qu'il est famille, Père, Fils, Esprit Saint, trois personnes tellement unies par amour qu'elles ne font qu'un. Je crois que Dieu est bonheur infini parce qu'il est amour infini. Je crois que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde et qu'ainsi l'amour infini a pris en Marie visage d'homme, corps d'homme, cœur d'homme, Jésus de Nazareth. 33 ans de vie plantée au centre de l'histoire humaine et la recouvrant toute. Je crois que les croyants et amants de Jésus forment ensemble un grand peuple, une grande communauté, l'Église. Je crois que cette communauté Église, dont je suis membre en Jésus et avec mes frères, est pour nous pauvres et pécheresses, et qu'elle n'a pas su garder son unité. Mais je crois qu'elle est appelée à être sainte, une et signe de l'amour. Je crois que Jésus a voulu pour elle des responsables, et que ces responsables sont des hommes, et donc qu'ils sont pécheurs et peuvent se tromper. Mais je les respecte et je les aime parce que Jésus les a voulu choisir, appeler, et que son esprit les accompagne sur les longs chemins de l'histoire. Et je terminerai par la lecture qui est proposée de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un des versets de la Bible le plus cité et qui me permet, quoiqu'étant d'une religion différente de celle de l'auteur, d'être parfaitement d'accord avec ces mots. La présentation de ce livre que nous lisons en ce moment, amis auditeurs, n'hésitez pas à vous procurer une Bible et à le confirmer par cette lecture. Poursuivez-en la découverte. Quant à nos lectures, je vous rappelle que l'émission « Je lis pour vous » est en direct les mardis et mercredis 21h sur Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB+. Rediffusion les lundis et mardis à 6h. Mais je vous propose aussi l'écoute des podcasts sur le site de la radio. À bientôt pour la suite de nos lectures.